1911, un des bien rares économistes français qui ne fut pas conservateur et qui s'appelait Francis Delézy avait lancé une petite brochure, 30 pages environ, qui s'appelait carrément « La guerre qui vient ». Et je tiens à vous lire un petit paragraphe de ce texte de Francis Delézy, 1911. « En dépit des apparences démocratiques en France, le peuple ne contrôle pas ses gouvernements. Un groupe étroit s'est emparé des conseils d'administration des grandes sociétés financières. Ces quelques hommes tiennent entre leurs mains les banques, les mines, les chemins de fer, les compagnies de navigation, bref, tout l'outillage économique de la France, sans oublier la sidérurgie et les fabriques d'armes d'où ils tirent de croissants profits. Ils dominent le Parlement et ont à leur solde la grande presse. La guerre ne leur fait pas peur, ils la considèrent même avec intérêt. » Et Francis Delézy ajoutait, « Nos banques ont gardé le souvenir des bénéfices énormes réalisés par elles en 1871. » Or, précisément dans cette année 1911, en juin 1911, un très gros événement de politique intérieure venait de se produire en France. Le nouveau président du Conseil, à la suite des élections de 1910, qui avait donné de plus en plus de majorité à la gauche et même à l'extrême gauche, 75 socialistes, le nouveau président du Conseil, c'était Joseph Caillaux. Nous avons vu déjà apparaître Caillaux une première fois et pas dans des circonstances très honorables. Vous savez, Caillaux avait été pris par Valdec-Rousseau dans son ministère de 99, un peu comme Trompe-l'œil. Caillaux disait ouvertement qu'il était favorable à l'impôt sur le revenu, et cependant, lui qui avait promis de présenter l'impôt sur le revenu, ne l'avait pas soutenu et très mollement sous la pression de Valdec-Rousseau qui le lui avait demandé. Je ne pense pas qu'il avait été très fier de ce comportement, et maintenant qu'il était président du Conseil, il avait l'intention, pour de bon et fermement, de le réaliser, son impôt sur le revenu. Qui est donc ce personnage? Ce n'est pas du tout un personnage du petit peuple, vous savez, c'est un grand monsieur. Il a pas mal d'argent, non pas qu'il soit un opulent, mais il a pas mal d'argent. Il est même mêlé des opérations bancaires. Il est président du Conseil d'administration du Crédit foncier argentin, président du Conseil d'administration du Crédit foncier égyptien. Mais c'est quelqu'un qui, bien qu'ancien inspecteur des finances et appartenant par sa famille au monde le plus aisé, est quelqu'un qui a le sentiment de la justice. Quelqu'un qui dit, non, cet impôt sur le revenu, ça coûtera à ma classe, ça me coûtera même à moi-même, mais enfin, c'est normal. D'autre part, je voudrais vous apporter la citation de quelqu'un qui lui ressemble peu, qui est un écrivain, on peut le dire de droite, qui s'appelle Jacques Chastenet de l'Académie française, qui a écrit un livre bien fait, orienté naturellement du côté de ce que l'on appelle les idées modérées, un très gros livre sur la Troisième République. Eh bien, dans ce livre de Jacques Chastenet, modéré de l'Académie française, il y a tout de même ceci. Joseph Caillaux est un des rares hommes politiques français qui pensa européen. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que Caillaux n'était pas un nationaliste, que Caillaux aurait véritablement désiré une entente internationale en Europe, qu'il pensait qu'il y avait moyen, qu'il voyait trop clairement ce qui se préparait, c'est-à-dire un carnage, et que, reprenant sur d'autres bases l'idée de Nicolas II en 1898, il aurait voulu au moins un stop à la politique des armements. Et à la base, une entente franco-allemande qui pouvait se réaliser sur des bases économiques. Pensez bien qu'un homme pareil, à deux points de vue, est inacceptable. Premier point de vue, parce que c'est l'homme de l'impôt sur le revenu et que je vous ai dit que c'était la grande affaire des modérés. Nous ne voulons pas d'impôt sur le revenu. Deuxièmement, parce que c'est quelqu'un qui combat le nationalisme et que le nationalisme ne sert pas simplement à des fins intérieures, mais rapporte les profits les plus considérables aux fabricants d'armes. Que va devenir la sidérurgie si jamais les fabrications d'armes stoppent? Pensez donc que le Creusot assurait à ce moment-là du 20% à ses actionnaires, Châtillon Commenterie du 16% et les ateliers de la marine du 13%. Alors si l'on suivait cette politique pacifique de Caillaux, c'était tuer la poule aux œufs d'or. Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre Caillaux? Il n'y a plus moyen cette fois d'opérer la fameuse diversion anticléricale que nous avons vue si utile deux fois. On ne peut pas dire que Caillaux est un homme qui travaille pour les curés, pas du tout, il est même fortement anti-religieux. Alors, il faudra trouver autre chose, mais c'est facile ce qu'on va trouver. Autrefois, on orientait les esprits du côté du clergé, maintenant on va l'orienter de plus en plus du côté du nationalisme, et c'est à cette fin du reste que le nationalisme a été créé. Il va y avoir l'alibi patriotique. Et on peut dire que les événements vont les servir. Quels événements? Caillaux avait à peine pris le pouvoir, c'était le 27 juin 1911 qu'il avait pris le pouvoir, à peine, que le 1er juillet se produit du côté du Maroc un événement nouveau. C'est ce que les livres traditionnels appellent le coup d'Agadir, les mêmes livres traditionnels qui ont déjà parlé du coup de Tanger. Je vous rappelle que ce qu'on a appelé en France le coup de Tanger, à savoir cette irruption menaçante d'un Guillaume II à Tanger disant « Attention, je tire l'épée si vous ne me faites pas ma part », ce qui n'était pas vrai, Et bien de même, ça va recommencer avec Agadir, le 1er juillet 1911, lorsqu'on va voir une canonnière allemande qui s'appelle la Panthère mouillée en rade d'Agadir. La tradition est que c'était un geste de nouveau menaçant, c'était l'Allemagne qui envoyait un navire de guerre et qui faisait comprendre à la France, si vous ne cédez pas, je tire. Ce n'est pas vrai de nous. D'abord, qu'est-ce que c'était que la canonnière? Eh bien, c'était un petit bateau. Il y avait 125 hommes à bord, 125 hommes, et qui ne débarqueront même jamais. L'empereur leur a demandé de rester à bord de leur bateau. C'est un geste symbolique. Ça n'a rien de spectaculaire. C'est en effet le renouvellement de Tanger en disant, écoutez, ce n'est pas sérieux. Hein. Déjà, j'ai été obligé d'obtenir de vous, un peu par la contrainte, mais enfin en fronçant les sourcils, que vous m'acceptiez pour le partage du Maroc. Je m'aperçois que ce n'est pas vrai, que vous faites la conquête du Maroc, que les engagements pris à Algésiras et renouvelés en février 1909 ne sont pas tenus, que toutes les sociétés allemandes sont évincées. Je vous demande d'être sérieux. Il ne s'agit pas de menace, vous allez voir le mot exact qui va être prononcé dans le texte diplomatique. Il s'agit d'un échange de vues amicales, le mot y est bien dans le texte. C'est la note remise par l'ambassadeur d'Allemagne au ministère des Affaires étrangères. Un échange de vues amicales sur ce qu'il convient de faire au Maroc. Mais vous pensez bien que l'opinion publique préparée par la grande presse va accepter ça d'une toute autre manière. Francis Delézy, d'une manière un peu amusante, va écrire ceci. La presse nationaliste déclarait que Guillaume II, tous les matins, en prenant son chocolat, se demandait si ce n'était pas aujourd'hui qu'il allait jeter ses houlans sur Nancy. Oui, c'est ça, en effet, qu'on voulait faire croire à la France. Alors qu'il ne s'agissait de rien de tel. Échange de vues amicales. Bien, lui, Caillaux, il serait prêt, en effet, à un échange de vues, parce que les Allemands ont même fait une proposition. Ils ont dit, écoutez, vous y êtes, quoi, vous possédez votre Maroc. J'ajoute que le Crown Prince, le prince héritier, quoi, avait dit très personnellement et très directement à l'ambassadeur de France, qui s'appelait Jules Cambon, vous voilà à Fès. Le Maroc, vous l'avez, c'est un bon morceau. Vous nous ferez notre part, et tout sera dit. Notre part, pas au Maroc, mais il demande autre chose. Et alors, Caillaux, qui commence à négocier avec les Allemands, c'est qu'ils font une proposition. Ils disent, écoutez, nous avons déjà le Cameroun, vous le savez, nous avons le Togo aussi, vous avez, vous, le Congo, eh bien, on va vous donner, à vous, Français, notre Togo, mais vous donnerez une partie du Congo français. Évidemment, l'échange est très bénéfique pour les Allemands, mais il leur faut une compensation, puisque la France s'agrandit prodigieusement avec le Maroc, et que, d'une manière que je dois dire assez modeste, ils ne demandent en compensation qu'une partie du Congo. Et même, ils veulent donner le Togo. On négocie et une chose pénible se passe à ce moment-là, c'est que Caillaux est tout de même président du Conseil, quoi, c'est lui qui dirige la politique française, mais il a un ministre d'affaires étrangères qui s'appelle Monsieur de Selve et dont son nom seul indique qu'il est très lié avec les milieux distingués. Et Monsieur de Selve trahit son président du Conseil. Il fait le contraire de la politique que le président du Conseil lui prescrit et il essaye de mettre perpétuellement des bâtons dans les roues pour empêcher l'arrangement de se produire. Je dois dire, en revanche, que Jules Cambon, ambassadeur de France à Berlin, est parfaitement loyal et comprend quant à lui qu'il y a en effet un moyen de s'arranger. Alors ça va aboutir finalement le 4 novembre 1911 à l'arrangement qui permettra aux Allemands de prendre encore moins que ce qu'ils avaient demandé au Congo, parce que l'on a refusé le Togo, on leur donne deux voies d'accès au fleuve, à l'Ogowé d'une part et au Congo d'autre part, et eux-mêmes abandonnent au nord du Cameroun une certaine région qui va permettre d'étendre les possessions françaises du Tchad, c'est ce qu'on appelle le bec de canard entre deux rivières, le Logoné et l'Ogowé, si bien que l'arrangement va être considéré par les chpans germanistes, Dieu sait qu'ils sont véhéments, comme un Waterloo pour eux et comme un Austerlitz pour la France. Au point que la revue très pan-germaniste, le Tägliches Rundschau, va écrire « La diplomatie française vient de remporter sa plus grande victoire depuis Talleyrand ». Et au point que le ministre allemand des colonies, qui s'appelait Lindequist, va être obligé, sous la pression d'une partie de l'opinion publique, de démissionner. Or, si les pan-germanistes sont furieux, les nationalistes français ne sont pas moins furieux. Et Caillaux va devenir l'objet d'une campagne d'une extraordinaire bassesse, et ce n'est pas moi qui emploie ce mot, c'est M. Baudelomeni, un conservateur dont je vous ai déjà parlé, contre Caillaux va être dirigée une campagne de calomnie déshonorante pour ceux qui la menaient. Il y a quelqu'un qui mène l'opération en coulisses, c'est Briand. Nous avons déjà vu qu'il était Briand. Je vous ai raconté qu'il était parti de l'extrême-extrême gauche, c'était l'homme de la grève générale, qui s'était avancé par de la démagogie, qu'il avait fini par faire une carrière brillante, entrer au Parlement en 1902, il est déjà ministre en 1906. C'est l'homme qui s'est couvert de gloire devant la droite en mobilisant les cheminots et en déclarant que tout cheminot qui voudrait être gréviste sera considéré comme un déserteur et passerait en conseil de guerre. Ce Briand, il a eu une bonne idée, il s'est dit on va constituer un grand parti national et il a trouvé pour son grand parti national une tête de liste, quelqu'un qui lui paraît idoine, conforme, adéquat, le Lorrain Poincaré. Poincaré, je viens de vous le dire, vient d'un autre côté, mais c'est exactement l'homme qu'il faut, puisqu'on m'a maintenant poussé, forcé sur le nationalisme. C'est quelqu'un qui se trouve, en effet, être né à Bar-le-Duc. C'est quelqu'un qui est un grand avocat d'affaires, personnellement, non pas très riche, mais tout de même dans une grande aisance, et qui, surtout, s'est classé depuis plusieurs années comme l'homme qui empêchera, l'homme rempart, l'homme barrage, qui empêchera l'impôt sur le revenu. Alors, on va créer une espèce de légende Poincaré, on publiera des articles sur lui pour faire entendre que c'est le français type, le français même exceptionnel. On donnera des détails sur sa probité. On dira que quand il était ministre, il avait toujours soin de distinguer son courrier personnel du courrier officiel afin de ne pas employer les timbres de l'État pour sa correspondance personnelle. Enfin, toutes sortes de petites histoires qui vont donner une physionomie satisfaisante et séduisante à ce Poincaré. Il est bien Poincaré pour l'opération que l'on veut entreprendre. Comme il s'agit avant tout d'empêcher de passer l'impôt sur le revenu, et qu'on avait recouru en 1905 à un certain Rouvier, que vous vous rappelez, Rouvier qui était l'ancien commis de la banque Zafiropoulos, Rouvier qui avait été compromis dans l'affaire du Panama, Rouvier qui était le créateur de cette banque parisienne de crédit pour le commerce et l'industrie, c'est-à-dire trop visiblement, un homme d'argent, Poincaré lui était bien supérieur. Car il n'était pas, lui, visiblement un homme d'argent, c'était les grands intérêts costumés, cette fois en tricolore. Alors on va s'arranger pour faire tomber Caillou, ce qui ne sera pas difficile, et c'est que c'est le 15 janvier 1912 que Caillou est renversé et que le ministère Poincaré est constitué. Dans ce ministère Poincaré, il y aura naturellement Mirand, qui est l'homme venu aussi de l'extrême-gauche comme Briand et qui est maintenant passé à droite, qui va être ministre de la guerre, et bien entendu, on va faire revenir Del Cassé. Je voudrais vous apporter là une petite phrase de la correspondance de Peggy, qui n'est pas encore entièrement publiée, mais cette phrase-là a été publiée. Peggy était très lié avec Mirand, ce qui m'a toujours paru un peu surprenant. Peggy, vous savez, disait que Jaurès était un traître et que Mirand représentait l'honneur et la droiture. Ça me paraît un contresens absolu. Toujours est-il que Peggy, apprenant à peine la nomination de Mirand comme ministre de la guerre, lui écrit carrément ceci: « J'espère bien, monsieur le ministre, que sous vous, c'est-à-dire sous votre direction, nous aurons la guerre. J'espère bien que sous vous, nous aurons la guerre. » Alors, qu'est-ce qu'il va faire, ce ministère? Eh bien, d'abord, il faut terminer cette affaire du Maroc, puisque les Allemands sont satisfaits du côté de leur Congo, enfin, sont satisfaits, puisque le gouvernement allemand se déclare satisfait de ce qu'on lui a donné du côté du Congo. On peut y aller, on a les mains libres pour faire main basse sur ce qui reste du Maroc. Alors, on se mettra le paquet, il y aura la tâche de Taza. Taza, ça se situe dans les montagnes qui sont au nord-est, c'est-à-dire ce qui sépare Casablanca d'un côté et l'Oujda de l'autre. On va réduire les derniers insurgés qui sont là, luttant pour leur indépendance. On va en même temps faire une opération sur la Mauritanie. Ça, c'est pas le Maroc, mais ça joint le Maroc avec le Nord, avec le Sud, avec le Sénégal. Alors, il y a le jeune Psicari, l'ami de Peggy, qui va se couvrir de gloire aussi en Mauritanie, jusqu'en mai 1914. Jusqu'en mai 1914, on se battra au Maroc. On a nommé un résident général, le premier résident général, qui s'appelle Lyautey, qui a la chance, lui aussi, d'être un Lorrain, c'est donc de plus en plus parfait. Lyautey aura sa politique personnelle, sa politique de l'Union des 6-6, s'appuyer sur les grands féodaux locaux, dont il sait très bien comment ils se comportent à l'égard des indigènes, mais ça lui fait des points d'appui. On donne des avantages personnels à ces féodaux, en échange de quoi les féodaux travaillent en faveur de l'occupant. Ajoutons, pour être loyaux, qu'effectivement, Lyautey va faire tout ce qu'il pourra pour de bons investissements au Maroc, pour des routes, pour des hôpitaux, qu'il est personnellement un homme humain, qu'il n'aime pas l'exploitation de l'indigène, et qu'il rendra certes des services. Mais il y a un service auquel il tient essentiellement, c'est-à-dire lever de troupes. Mirand lui a d'ailleurs demandé, il faut maintenant des contingents indigènes, comme on disait, dans les troupes françaises. La guerre s'approche, on le sait très bien. Alors, lever de soldats en Indochine, paraît-il, ils ne sont pas de très bons combattants, on les emploiera à l'arrière. Mais lever de troupes au Sénégal et lever de troupes en Algérie et au Maroc. À peine la conquête est-elle achevée que des bataillons et des régiments de soldats marocains sont préparés à être envoyés sur le sol de la métropole en cas grave. Bon, affaire du Maroc réglée, ça y est. Côté Russie, ça c'est un agacement chez Poincaré et chez Del Cassé de voir que cette Russie est si terriblement molle. C'est une chose sur laquelle on n'insistera jamais assez. Les Français, depuis un certain nombre d'années, sont là suspendus au basque des Russes pour leur dire « Mais dépêchez-vous, enfin faites quelque chose. Vous voyez bien que votre intérêt même est de nous soutenir s'il y a une opération militaire contre l'Allemagne. » Et les Russes étaient toujours là, résistants, inquiets, avec un Nicolas II très incliné du côté de la... Seulement, là, l'occasion semble de nouveau, enfin meilleure que jamais. À savoir que la Russie a subi ce que l'on appelle toujours en termes diplomatiques une humiliation dans l'année 1909 aux Balkans. Qui c'est qui règne aux Balkans? Ben, c'est à la fois le sultan, qui a une suzeraineté apparente du moins sur tous ses territoires, et puis il y a l'Autriche-Hongrie qui est là, qui surveille en se disant « il y a un panslavisme dangereux chez les Serbes, ça peut venir du côté de chez moi, je voudrais bien prendre les sûretés ». Alors voilà qu'en 1909, l'Autriche-Hongrie, au mépris de tous les traités du reste, décide qu'elle annexe la Bosnie-Herzégovine, sur laquelle elle avait un droit de protectorat. Autrefois, donc, territoire sous la dépendance du sultan. La Russie n'a pas osé bouger, parce qu'elle sortait de cette épouvantable guerre russo-japonaise où elle était durement étrillée. Elle avait bien essayé de froncer les sourcils, mais ça n'était pas suffisant pour retenir l'Autriche. Donc, l'Autriche avait fait un pas en avant considérable. Mais surtout, depuis 1905, il y avait à l'intérieur de la Russie des problèmes sociaux tragiques. Peut-être vous rappelez-vous ce qui s'était passé en janvier 1905, le dimanche rouge de janvier 1905, quand 10 000 ou 15 000 ouvriers avec leurs femmes et avec leurs gosses étaient venus plaintifs, suppliants et non pas menaçants devant le palais d'hiver du tsar Nicolas II à Saint-Pétersbourg pour demander une atténuation à leur sort, pour demander une réduction de la journée de travail. Et sinon le tsar, du moins l'entourage du tsar, avait décidé qu'il fallait répondre par la mitraille. Et on en avait tué un millier à peu près, on n'a jamais su le chiffre exact. L'année suivante, ça avait été une tentative de commune insurrectionnelle à Moscou, réduite dans le sang. Ça avait été une mutinerie dans la marine russe, avec le cuirassé Potemkin à Odessa. La situation était dangereuse. Du reste, il y a un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Pleve, avait dit en 1904, sentant venir l'agitation sociale, avait dit au chef de l'armée qui s'appelait général Kouropatkine, il nous faudrait une bonne petite guerre victorieuse pour orienter ailleurs les esprits. Ben, la bonne petite guerre victorieuse, elle avait bien mal tourné. Hein. C'est comme pour la France, au moment de sa petite guerre victorieuse de 1870, pour orienter les esprits ailleurs. La petite guerre victorieuse, ça avait été l'épouvantable désastre de la guerre russo-japonaise. Tout ça pour vous dire que, premièrement, elle n'avait pas été, la Russie, en mesure d'intimider l'Autriche-Hongrie en 1909 parce qu'elle n'était pas le remise, et deuxièmement, parce que le problème social devenait tellement crucial, tellement ardent, tellement menaçant, que, de nouveau, elle se disait, les partis dirigeants se disaient, vraiment, la solution serait d'orienter les esprits vers la guerre. Il y a maintenant, à la cour du tsar, un parti de la guerre très puissant. Et ce parti de la guerre est animé en particulier par l'ambassadeur russe à Paris, qui s'appelle Isvolsky, qui est intime avec Poincaré et qui le voit sans cesse. Ben, Poincaré va faire quelque chose de très terrible. Poincaré va se rendre, en tant que président du Conseil, au mois d'août 1912 en Russie, où je dirais s'il est accueilli avec un faste inhabituel. Je veux dire qu'on va accueillir Poincaré comme on eût accueilli un chef d'État. Il n'est pas chef d'État, il n'est pas président de la République, il est président du Conseil. Mais la Russie a maintenant vraiment besoin de la France, parce qu'elle a des arrière-pensées. La Russie songe positivement à la guerre. Elle veut se venger de l'Autriche-Hongrie, et elle veut surtout se tirer d'affaire du point de vue économique et social. Poincaré va prendre un engagement bien redoutable. C'est la première fois qu'il va dire à la Russie, mais écoutez, si jamais vous avez une guerre avec l'Autriche, on sera avec vous, avec l'Autriche. L'Autriche, c'est l'unique allié sur le continent, c'est l'unique allié de l'Allemagne. Il est tout à fait certain que l'Allemagne ne peut pas admettre que son unique allié, car l'Italie ne compte pas, on sait qu'elle veut s'enfuir, si son unique allié est écrasé, l'Allemagne se sent absolument seule. Elle est encerclée, l'Allemagne, c'est le mot du reste de Delcassé. Il avait pratiqué l'encerclement de l'Allemagne. Il a d'un côté maintenant une Angleterre qui semble décider à y aller fort s'il le faut. Il a une Russie qu'on a fini par convaincre et qui s'en vainque toute seule. L'Allemagne se sent encerclée des deux côtés. Et Poincaré, qui semble bien vouloir chercher une occasion, dit à la Russie, si vous avez un conflit militaire avec l'Autriche, nous serons derrière. Vous imaginez la gravité d'un pareil engagement. Mais pour que ça marche, il faut une action sur l'opinion publique. Alors ce ministère Poincaré, Mitterrand, puisque Mitterrand est son premier collaborateur comme ministère de la guerre, est un ministère qui va s'appliquer à travailler sur l'opinion publique. Et je vous assure qu'on travaille sur l'opinion publique. Je vous apporte là un certain nombre de textes qui sont de la grande presse. Vous voyez par exemple M. Paul Bourget, dans 1912, c'est l'année Poincaré, dans l'Écho de Paris, qui annonce que la guerre est sainte et régénératrice. Dans le Figaro du 22 octobre 1912, M. Abel Bonnard écrit « C'est par la guerre que tout se refait ». Il faut savoir l'embrasser dans toute sa sauvage poésie. Vous avez encore quelqu'un d'autre, c'est Henri Massis, C'est-à-dire, ça fait trois académiciens que je viens de nommer. Henri Massy, qui travaillait avec un monsieur de Tardes, mais qui signait à Gaton, avait fait une enquête qui avait paru d'abord dans un journal qui s'appelait L'Opinion, journal poincariste. Et cette enquête que Tardes et Massy avaient soignée, ils l'ont fait paraître en un petit volume, qui sera immédiatement l'objet d'une vaste diffusion. Il appelle ça enquête sur la jeunesse française, mais attention, il s'était occupé surtout que d'une certaine jeunesse du quartier latin, et très spécialement de celle des sciences politiques et de l'école de droit, enfin de la faculté de droit, où régnait un esprit nationaliste. Et il va écrire ceci, il va oser écrire ceci. Massis, la guerre, point d'exclamation. Un mot tout jeune, un mot tout neuf, pareil de cette séduction que l'éternel instinct belliqueux a revivifié au cœur des hommes. La guerre, c'est l'occasion des plus nobles vertus humaine. Donc vous voyez que c'est soigneusement préparé, hein. On met en condition les Français, on leur dit, mais n'ayez pas peur de la guerre, au contraire, la guerre, ce qu'il y a de mieux. Et je suis triste de vous dire que quelqu'un qui semble mériter l'estime, je veux dire Bergson, est donné dans ce sens-là, puisque Bergson, dans une interview publiée dans Le Gaulois du 15 juin 1912, parlait de cette sorte de renaissance morale de la France. L'évolution de la jeunesse actuelle m'apparaît comme une espèce de miracle. Preuve que le génie de la France est intact. Notre jeunesse aspire à une magnifique unité nationale. Et Bergson avait salué le livre de Psychary qui s'appelle « L'appel des armes » qui succédait pratiquement à « L'appel aux soldats » de Barrès lancé en 1900 et en disant « Ou je me trompe fort, ou ce livre contribuera à créer une atmosphère morale, celle même dont nous avons besoin. » Quant à Migrant, ministre de la guerre, il agissait efficacement, toujours dans le même sens. C'était lui qui avait décidé la création des retraite militaire du samedi soir dans les villes de garnison. J'ai connu ça puisque je suis né à Mâcon et que j'ai vu les retraites. C'était le 134e régiment d'infanterie auquel j'appartiendrai, qui était en garnison à Mâcon. Et en 1912, 1913, début 1914, on voyait le samedi soir la clique, c'est-à-dire les tambours et les clairons qui parcouraient les rues principales de la ville de Mâcon avec des lampions et toujours une bande de gens qui suivaient en acclamant, en criant ce qui était très bien, vive la France, et en criant ce qui était moins bien, vive l'Allemagne. Comme il veut avoir... bas l'Allemagne. À Balalma. Comme d'autre part, il veut avoir avec lui la droite et l'extrême droite, on va voir ce migrant, si anti-religieux autrefois, qui décide que la marine célébrera de nouveau chaque année d'une manière officielle le Vendredi Saint, et on le va voir aussi réintégrer dans les cadres de l'armée quelqu'un qui en avait été chassé à cause de sa coopération aux Antilles et Fusards, c'était le colonel du Petit Cap. Et il est triste de penser que dès que cette réintégration est obtenue par les soins de Migrant, on va voir le petit Peggy écrire à Migrant pour l'en féliciter. Lui, Peggy, qui autrefois était un des combattants Dreyfusard. On va également faire tout ce qu'on pourra sur l'opinion publique intérieure française en faveur de l'Alsace. L'Alsace, Lorraine, il y a eu des incidents assez pénibles à Saverne avec un certain lieutenant Forster. Et on va mettre en vedette la protestation permanente de cet abbé Wetterlé, les dessins du dessinateur Hansi. Et ce qu'il faut savoir, et qui est un peu cruel à dire, mais M. Renouvin lui-même, qui n'est pas un esprit de gauche, le dira, c'est que la plus grande partie des Alsaciens s'accommodaient parfaitement cette domination allemande, heureux qu'ils étaient de profiter de la prospérité allemande. Et puis, parmi les travaux préparatoires, il faut indiquer aussi ce que l'or russe fait sur la presse française. En 1934, je crois, il y a un livre d'un extraordinaire intérêt qui est apparu, d'un nommé Rafalovitch, qui était le conseiller secret, le conseiller financier secret de l'ambassade de Russie à Paris, et qui indique avec les chiffres mêmes ce que les principaux journaux français recevaient pour préparer l'opinion publique française à la guerre. Au point qu'un certain monsieur Raymond Recouly, qui deviendra plus tard directeur de la revue de France après la guerre, envoyait aux journaux, à Figaro, je crois, des articles qui ne lui coûtaient rien, puisque ces articles étaient directement rédigés par Saint-Pétersbourg, qu'il les recevait et qu'il les apportait tel quel sous sa signature au journal Le Figaro. Le Matin, quand Poincaré était parti pour la Russie, Le Matin avait publié le 8 août 1912 un article terrible. Nous assistons aujourd'hui à la formation du groupe le plus formidable constitué par la France, la Russie, l'Angleterre, le Japon, la Serbie, la Grèce. On ne pouvait pas mieux dire à l'Allemagne qu'on était en train de lui préparer une coalition contre elle. Et Izvolsky, l'ambassadeur de Russie à Paris, qui voyait Poincaré, non pas quotidiennement, mais enfin très souvent, s'inquiète presque maintenant de la précipitation que Poincaré semble apporter à la préparation du conflit. C'est lui, Izvolsky, qui va écrire à son chef, c'est-à-dire le président du Conseil russe, le 12 septembre 1912, ce que j'aurais à craindre en ce moment. Ce n'est plus des hésitations françaises devant une guerre qui serait imposée à la nation par des intérêts étrangers, c'est-à-dire l'alliance avec nous, mais bien plutôt que nous, Russes, soyons trop passifs, c'est-à-dire qu'il a peur de la mollesse du tsar, devant une question qui engage le prestige de la triple entente. La triple entente, France, Angleterre, Russie. Évidemment, dans des conditions pareilles, l'Allemagne sait qu'elle est menacée. Et ce qui est très frappant, c'est de penser que Guillaume II s'obstine encore à chercher un rapprochement avec la France. Cambon, du reste, notre l'ambassadeur de France, là-bas, répète à notre gouvernement ceci. On se trompe en attribuant à la politique allemande une unité de vue, une constance dans les défauts, une préméditation dans les actes. Ce n'est pas exact. Il y avait en France, comme en Russie, il y avait en Allemagne, comme en France et comme en Russie, deux partis. On nous a représenté l'Allemagne comme unitaire, comme toute tendue vers cette idée de violence, se sentant encerclée et l'aurait attaquée parce qu'elle était encerclée. Attention, prenons bien les choses comme elles furent. Il y avait devant nous un Guillaume II parfaitement hésitant. C'est un drôle de gars, Guillaume II, vous savez. Je me suis un petit peu enquis de cette personnalité. C'est un névropathe, je crois. C'était un homme, vous savez, qui avait le bras gauche plus court que l'autre, qui avait une arythmie du cœur, en fait, qui était un homme sujet à des coups de tête et des coups de sang, qui passait d'une opinion à l'autre sous les pressions diverses qu'il subissait, qui à un certain moment avait l'idée de se présenter comme le libérateur de l'islam. À d'autres moments, il s'était fait peindre sous la forme de l'archange Saint-Michel lorsqu'il avait décidé l'opération militaire contre la Chine. C'était lui qui avait lancé l'idée du péril jaune. Et dans cette question internationale et franco-allemande, il était là à se demander ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et il y avait à côté de lui un parti de la paix et un parti de la guerre. Bethmann Hollweg, son chancelier, était partisan de la paix. Moltke, son chef d'état-major, était partisan de la guerre. Et il était parfaitement incertain. Néanmoins, il va essayer encore, en 1911, de dire ceci à l'attaché militaire français. Les Anglais ne cherchent qu'à provoquer une bonne guerre en Europe. La politique des Anglais a toujours été de faire s'entrebattre les peuples du continent. France et Allemagne réunies, nous ferions ce que nous voudrions dans le monde. Guillaume II veut bien tenter de faire ce qu'il pourra pour éviter ce carnage dont il n'a certainement pas envie, mais il s'aperçoit bien de ce qui se passe en France. Mais ce qui se passe en France, c'est que Mitterrand a annoncé qu'il a déposé le projet de la loi de 3 ans. 3 ans de service militaire en France au lieu de 2 ans. Vous pensez à quel point Moltke se frotte les mains en disant « ça, c'est une bonne occasion de montrer aux Français que nous n'avons pas peur d'eux et nous allons, nous aussi, faire un effort militaire considérable ». Si bien qu'au début de l'année 1913, les Allemands vont porter à 800 000 hommes, le chiffre de leur armée sur pied de plaie. Je dois vous apporter ici une citation à laquelle j'attache beaucoup de prix d'un neutre, qui ne pourra pas être neutre longtemps, c'est la Belgique. C'est une note du baron Guillaume, ambassadeur de Belgique à Paris, et qui écrit, lorsque Poincaré a été nommé président cette fois de la République au début de l'année 1913, et qui écrit, ce sont messieurs Poincaré, Delcassé et Mitterrand qui ont inventé la politique cocarrière de la France, j'y vois le plus grand péril, c'est le Belge qui parle, j'y vois le plus grand péril qui menace aujourd'hui la paix de l'Europe. Guillaume II a très certainement, nous le savons, il n'y a pas de problème, freiné et retenu l'Autriche-Hongrie pendant l'année 1913 dans l'affaire balkanique. Je ne crois pas que les Russes à ce moment-là cherchaient encore une opération militaire contre l'Autriche. Mais l'Autriche voyait bien ce qui pouvait la menacer du côté de la Serbie, non pas que la Serbie puisse l'attaquer et être plus forte qu'elle, mais la Serbie essayait de provoquer à l'intérieur des Balkans et à l'intérieur même de ces Slaves qui étaient déjà inclus dans l'Empire austro-hongrois, cherchait à provoquer un panslavisme ou un panserbisme, comme vous voudrez, qui était extrêmement inquiétant pour un pays menacé sans cesse de désagrégation. Alors les documents diplomatiques sont là, l'Autriche à ce moment-là se demande à plusieurs reprises « est-ce que je vais foncer sur la Serbie ?» Évidemment la Russie va intervenir pour défendre la Serbie, « dois-je le faire, dois-je pas le faire ?» Et c'est Guillaume II qui lui a dit chaque fois « non, ne bougez pas, surtout ne bougez pas » parce que ses conseillers diplomatiques, Bethmann Hollweg surtout, lui dit « dès qu'il y aura une opération de guerre entre l'Autriche et la Russie, nous y serons fatalement impliqués. » Et bien voilà qu'à la fin de l'année 1913, étant donné ce qui se passe en France, Guillaume II change d'attitude. Il change d'attitude et il dit très carrément au roi Albert Ier, vous savez, le roi des Belges, qui était venu en visite à Potsdam en novembre 1913, il le lui dit sans bravade, il lui dit tristement, je crois vraiment que si les choses continuent sur leur lancée, la guerre avec la France est fatale. Et voilà qu'il va se produire en France quelque chose de très dramatique, à savoir que, tout à coup, Poincaré doit tolérer un ministre des Finances qui lui est présenté par le nouveau ministère Doumergue. Ce ministre des Finances, c'est Caillaux. Caillaux, c'est la menace certaine, cette fois, de l'impôt sur le revenu. On est tout près des prochaines élections. c'est au mois de mai 1914 que les élections vont avoir lieu. Tous les rapports des préfets disent qu'on va avoir un bond du Parti socialiste, un bond du Parti radical, et que cette fois l'impôt sur le revenu ne pourra pas être évité. On peut donc dire qu'au début de l'année 1914, jamais la situation n'a été plus critique en France pour les honnêtes gens.